Jacques Prévert.
Une hirondelle vole dans le ciel, vole vers son nid où il y a des petits. Elle leur apporte une ombrelle, des verres de vase, des pissenlits, un tas de choses pour amuser les enfants. Avez-vous des nouvelles? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles du monde? Des nouvelles du monde, il paraît qu'il va changer. La vie va devenir très belle. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle. Et personne ne sera humilié.
Ce poème de Jacques Prévert, dit ici par Suzanne Flon, date du Front Populaire, celui de 34-37. Bonjour et bienvenue dans cette 29e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Aujourd'hui, seconde visite autour du Front Populaire, l'originel, celui avec Léon Blum. Rappelons le contexte. Aux législatives du 3 mai 1936, le Front Populaire constitue l'union de la gauche face à l'imminence de la prise de pouvoir par l'extrême droite d'alors. Celle-ci, déjà bien antisémite, xénophobe, a coquiné au grand patron et bien violente, est bel et bien aux portes du pouvoir, surtout après la sinistre soirée du 6 février 34, à jamais dans les mémoires. La Troisième République avait vacillé, et pas qu'un peu. Aussi, je vous propose de commencer par ce discours du secrétaire général du PCF, Maurice Thorez. Comme il date du 17 avril 36, excusez la qualité.
C'est à Paris. Le peuple de France répugne à l'esclavage et à la servitude, à la discipline du troupeau soumise à la dictature d'un seul qui parle au nom des maîtres capitalistes. Car le fascisme, c'est en effet l'avilissement, l'anéantissement de l'individu. C'est l'impossibilité pour le savoir et le talent de donner leur pleine mesure dans le plein épanouissement de la liberté assurée à chacun et à tous. C'est le refoulement de tout esprit d'initiative et de progrès. Le fascisme, c'est aussi à l'extérieur, une politique d'aventure et de provocation. Le fascisme, c'est la guerre. Nul honnête homme n'en peut douter.
Les législatives sont gagnées début mai, l'UMNI en septembre 2020.
Mais son investiture n'est prévue que dans un mois. Alors des grèves spontanées éclatent jusqu'à ce que soient signés les accords de Matignon.
Dès la première semaine du Front Populaire, les ouvriers ont occupé les usines. Ils les ont occupées pacifiquement. Et si j'ose dire, non seulement pacifiquement, mais en ayant la coquetterie de les tenir en bon état plus qu'avant.
Fantômes, nous sommes les hommes de somme qu'on nomme d'années de la mer. Nous devons, coûte que coûte, remplir les soutes du steamer. On crache les vaches. Pas de relâche, toujours la tâche de faire d'enfer. Chacun hideux, mais droit, tout droit. Charge, charbon d'un, charbon de deux, charbon de trois. La gale m'installe en cale, on râle qu'on va le bateau sur la mer. On traîne, on peine, vienne la veine, la mienne, la nôtre, crevée. Navire, le pire. Des noirs empires, tragiques à dire, mais vrais, bien vrais. Chacun hideux, étroit, tout droit. Tisonne le feu d'un, le feu de deux, le feu de trois. Au drame des flammes se pâment les âmes des dames voguantes en première. La houle roule, saoule ces poules qui foulent nos toits de fer. C'est elle. Où t'es-le? Sors en dentelle. À qui est-elle? À lui, à toi, à moi. Chacun, hideux, et trois. Attrape. Femme du un, femme du deux, femme du trois. Nous sommes les damnés, les chauffeurs, les soutiers, les va-du-pieds, les mal-nés. Va vers le bateau glisse, va vers la mer se glisse, va vers l'arbre se glisse, va vers jusque à l'hélice, va vers afin d'avancer. Sale mine, on piétine aux machines, aux turbines qui dessinent jusqu'en Chine à la poche la mer. Sillage du steamer. Chauffons à fond, nous somme les maudissaires du paquebot roi de la mer.
Marianne Oswald, Les Soutiers, 1936, musique de Valberg, parole de Gaston Bonheur. Mais parlons plutôt philosophie appliquée au combat de la lutte des classes.
Une femme comme Simone Veil, tenez, qui est considérée aujourd'hui comme une pacifiste intégrale, n'est-ce pas, et qui effectivement a fini dans une sorte de spiritualité supérieure, à l'époque, était une militante d'extrême gauche et professeure de philosophie à Rouen, je crois. Elle prenait la tête des cortèges de mineurs, drapeau rouge à la main, à la Ricamarie, vers Saint-Étienne, et elle criait aux ouvriers : comment vous n'êtes pas armés ? Commencez par vous armer, et pas au figuré, au sens propre. Elle demandait des fusils.
Il s'agit bien de Simone Veil, la philosophe dont un texte a été proposé au bac cette année, et non de l'éminente femme politique désormais au Panthéon. Allez, tenez, trois citations d'elle par ailleurs d'actualité fortuite. Parmi les êtres humains, on ne reconnaît pleinement l'existence que de ceux qu'on aime. Le triomphe de l'art est de conduire à autre chose que soi. Et, bien sûr, l'obéissance à un homme dont l'autorité n'est pas illuminée de légitimité, c'est un cauchemar. Alors Blum, à peine élu, entend adoucir les velléités du peuple.
L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée par toute atteinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front populaire, dont certains guettent déjà leur revanche. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline.
Il y avait chez lui une probité extraordinaire.
Pierre Manès
France. Besoin d'être complètement loyal vis-à-vis de tout ce qu'il entendait, et de manière générale vis-à-vis de la nation tout entière. Il n'y avait aucune habileté politicienne, il y avait une rigueur d'esprit extraordinaire. Et je dois dire qu'assez vite, beaucoup d'hommes, même assis sur les bancs qui n'étaient pas les siens, l'ont ainsi compris et lui ont été dans une certaine mesure reconnaissants. Le respect dont il était entouré chez beaucoup, l'estime que beaucoup d'hommes lui portaient, même sur les bancs de la droite, venait de ce qu'on savait que son honnêteté était intégrale, et qu'il ne trichait pas, il ne mentait pas, il ne biaisait pas, il ne fraudait pas.
Le 6 juin, Léon Blum présente à la Chambre le premier gouvernement de Front populaire qu'on ait vu en France. Pierre Cotte, alors ministre de l'Air, à sa place de député de l'époque, se souvient de cette séance houleuse et des invectives de la droite.
Votre arrivée au pouvoir, monsieur le président du Conseil, est incontestablement une date historique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné...
On les garde, monsieur Valin.
...par un juif. Je dis, parce que je le pense, et j'ai cette originalité ici qui, quelquefois, me fait assumer une tâche ingrate de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, que pour gouverner cette nation paysanne qu'est la France, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol, qu'un talmudiste subtil.
Dimanche 7 juin, au Veldiv. Le ministère date de la veille. Le matin même, Léon Blum a convoqué à Matignon les représentants des ouvriers et des patrons. La négociation est ouverte. Les accords seront conclus à l'aube. Léon Blum vient de quitter la salle de Matignon un moment pour rejoindre la fête populaire au Veldiv.
Nous sommes le gouvernement que vous avez voulu. Nous sommes le gouvernement que vos votes ont contribué à porter au pouvoir.
Dès sa prise de fonction, Léon Blum convoque patronat et syndicats pour négocier.
Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Pressé d'en finir, ils accourent à Matignon.
Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes conduits comme des propriétaires d'esclaves. Quelque chose a changé et pas en votre faveur. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, toutes choses que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. La classe ouvrière unie dans la CGT est assez forte pour vous obliger à respecter ses droits.
Les patrons cèdent sur toute la ligne. Mais ils repartent avec l'engagement formel des syndicats de mettre fin aux grèves et aux occupations.
Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Le veilleur de nuit passe de 1,75 à 4,50. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. 15 jours de congés payés pour tout le monde.
Avec des extraits de « À nous la vie », un film de fiction avec des vrais bouts d'actualité dedans, le tout filmé par Jean Renoir.
Le 8 juin, à 1h du matin, les accords de Matignon sont signés. Les avancées sont considérables. Les salaires augmentent. La semaine de travail passe de 48 heures à 40 heures. Le droit syndical est reconnu. Les premiers congés payés font leur apparition. C'est bientôt le temps des premiers départs en vacances et de l'insouciance d'une classe qui découvre le temps libre et la plage.
L'été approche, et pour que ce nouveau droit aux vacances devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont prévus. Beaucoup de Français voient, pour la première fois, la mer ou la montagne. Réduction de la durée du travail et création des congés payés s'inscrivent dans un projet de société plus large. Un projet que le ministre Léo Lagrange appelle la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. La culture, favorisée par la création de musées, accessibles au plus grand nombre. La pratique du sport, encouragée avec la création d'un poste gouvernemental chargé de le promouvoir. C'est, avant l'heure, l'ébauche d'une société qui investit dans la formation de la jeunesse et où se répandent les loisirs et le tourisme. Une société plus mixte aussi, puisque pour la première fois, des femmes entrent au gouvernement. Mais, en cet été 1936, Léon Blum sait que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaye d'arrêter les grèves pour faire repartir la production et mener à bien son programme. L'État affirme son rôle. Il tente de mieux contrôler la finance en réformant la Banque de France. Il lance un programme de grands travaux pour stimuler l'activité et moderniser le pays. Parmi ses projets, la construction de barrages électriques et l'achèvement de l'électrification du pays. Mais avant que ce vaste programme à long terme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'oppose fortement au Front populaire. Elle le soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste. Elle insiste sur les liens entre le Parti communiste, qui est un des trois partis du Front populaire, et le puissant Parti communiste soviétique, basé à Moscou. L'extrême droite, quant à elle, prend pour cible le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. C'est lui qui a fait dissoudre les ligues paramilitaires. Une violente campagne de presse fait courir de fausses rumeurs sur le ministre. Fragilisé, Salengro se suicide, portant un dur coup au moral du Front populaire. Surtout, la coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un événement qui surgit dès juillet 1936, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée. Une rébellion militaire menée par le général Franco. Franco est aidé, à la fois par Mussolini, qui dirige l'Italie fasciste, et par Adolf Hitler, à la tête de l'Allemagne nazie. En grande difficulté, le gouvernement espagnol demande l'aide de la France. Que doit-elle faire? Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols. Mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire. Divisée sur cette question cruciale, la coalition du Front populaire vacille. Et les difficultés financières s'accumulent. En octobre 1936, il a fallu dévaluer le franc. Et en juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers pour un mois. La Chambre des députés lui accorde, mais le Sénat lui refuse. Léon Blum démissionne. C'est la fin du gouvernement du Front populaire.
Là, je passe volontiers un extrait du grand apôtre pacifique qu'était Jean Jaurès, dit ici par Michael Lonsdal.
On ne mènera plus la multitude ouvrière par la contrainte. On n'asservira plus les masses ouvrières au travail.
Charles-André Julien, historien et ami notamment de Blum, ici en 76.
Sortant de Matignon et rue de Varennes, un homme s'approchant de moi et me disant « Monsieur, depuis 34 ans, je ne suis pas allé dans mon village. » Vous entendez ? Et cet homme-là pleurait. C'était quelque chose d'inouï, parce que il sentait qu'il y avait quelque chose de changé, n'est-ce pas ? On s'est moqué de ces congés payés. Maintenant, on voit tout ce que ça portait en soi d'avenir.
Les gouvernements suivants, menés par le centre, vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire.
En 1938, alors que le spectre de la Seconde Guerre mondiale plane sur l'Europe, Édouard Daladier forme un nouveau gouvernement avec la droite.
Mais l'heure des grands projets est passée. Maintenant, en cette fin des années 1930, une seule question préoccupe la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler, qui ne cesse d'étendre leur pouvoir?
Dès le début des années 30, l'état-major français alerte le gouvernement que l'Allemagne a commencé à réarmer. La France est alors durement touchée par la crise économique de 1929 et a mis en place des politiques de déflation qui retardent la sortie de crise. Le Front populaire remporte les élections en mai 1936 avec un slogan pacifiste « Pain, paix, liberté », ce qui fait craindre à l'état-major que le nouveau gouvernement ne prenne pas au sérieux la menace hitlérienne. Mais Léon Blum et les socialistes vont au contraire faire preuve d'un grand pragmatisme.
Dès que Blum arrive au pouvoir début juin 1936, il reçoit le général Gamelin, qui est donc le chef d'état-major général, et lui dit « Il ne faut pas que vous ayez des craintes, je suis bien conscient des dangers ». Et recevant le général de Gaulle peu après, le colonel de Gaulle, pardon, peu après, Blum lui déclare « On change d'avis quand on n'est plus dans l'opposition ».
Pendant ce temps, les événements s'accélèrent de l'autre côté du Rhin. Hitler a créé de nouvelles divisions armées, contrairement à ce que prévoyait le traité de Versailles. Ses troupes occupent désormais la rive gauche de la Ruhr et la Sarre. Le compte à rebours est lancé. Côté français, le gouvernement du Front Populaire suit la proposition de son ministre de la Défense, Édouard Daladier. Le budget militaire est considérablement renforcé. 14 milliards de crédits sont d'abord votés, étalés sur 4 ans. Des dizaines d'autres milliards suivront bientôt.
Simone Veil, toujours, la politique m'apparaît comme une sinistre rigolade. Tiens, un témoignage que je trouve aussi inattendu qu'intéressant, je vous laisse chercher le nom de ce ministre et même Premier ministre.
Au début de mai, à la fin avril ou au début de mai 36,
Michel Rocard.
Ma mère a subi l'opération d'appendicite, je crois, quelque chose de banal, et j'ai été avec ma sœur placée en garde le temps de l'hospitalisation de maman chez une famille amie qui habitait boulevard Saint-Michel. Et je me souviens encore, c'était une famille de gens assez huppés, en fin de milieu, bourgeois, très nettement bourgeois comme on dit aujourd'hui. Et je me souviens encore un matin d'être parti avec la maman de cette famille. Je l'accompagnais pour, enfin, elle me traînait faire les courses. Et en rentrant, nous remontions le boulevard Saint-Michel, lorsque s'est approchée une immense manifestation, une des grandes manifestations du Front Populaire. C'était magnifique, c'était gay, il y avait des drapeaux, ça chantait. Et cette femme était terrorisée. Et je me souviens encore de l'anxiété avec laquelle elle m'a refoulé par la porte cochère de l'immeuble où nous habitions. Il fallait pas voir ça, il fallait pas se mêler. Et moi, je trouvais ça tout joyeux. Et c'est... J'avais naturellement rien compris. Et je me suis longtemps demandé pourquoi on pouvait avoir si peur du peuple. Enfin, et cette image, je n'ai compris rétrospectivement cette image que près d'une dizaine d'années après. Puisqu'après les grandes images de mon enfance, ça a été tout de même la guerre. Enfin, c'est un tout autre registre. Alors voilà le souvenir principal que j'ai du Front Populaire. Il est très marquant. Enfin, tout y est. La coupure de la société en classe, c'est à laquelle j'étais censé appartenir. Et c'est au fond qui me fascinait.
Louis Aragon.
Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet. Le soleil, couleur de maïs, ne s'est pas couché de l'année sur nos pancartes promenées. Perpétuel temps des cerises, c'était un grand bal bleu et blanc dans la ville en bras de chemise. Sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique les chansons de la République. C'était comme une féerie. Aujourd'hui, le peuple est le maître. Il se promène dans Paris qui met ses drapeaux aux fenêtres. Enfants, chantez et rechantez le pain, la paix, la liberté.
Et oui, il s'agit bien de Michel Rocard. Ainsi va se clore cette seconde visite au Front Populaire qui, vous l'aurez deviné, n'a cessé qu'à cause des canons. Pourvu que tout cela ne nous porte pas la poisse. Sur ce, le podcast est à venir sur les bonnes plateformes et sur le site radioalpa.com, mais ne nous quittons pas sans musique et sans cette imparable rengaine d'époque par un Jean Gabin qui fit valser bien des mignonnes quand on se promène au bord de l'eau. Dernière citation. Toujours de Simone Veil, la philosophe, en espérant qu'elle ne se réalise pas car nous ne sommes pas une fieffée bande de masos. Accepter le mal qu'on nous fait comme remède à celui que nous avons fait ne me semble pas une bonne solution. Sur ce, bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et ne vous privez pas de réserver un peu de votre temps pour vous, pour vos proches, pour nous tous, pour aller voter dimanche.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Quel renouveau, Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui affardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, le bonheur nous saoule pour pas cher, chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, les jours semblent beaux, quand on se promène au bord de l'eau.